première fois. Oui, alors, en fait, pas besoin, je pense, de chercher le lien, parce qu'en fait, l'existence même du bureau central des cultes, elle va me permettre de resituer ce que je veux vous dire sur la laïcité en France, telle que nous l'appliquons au ministère de l'Intérieur, sans faire de redites par rapport aux différents intervenants que vous avez eus ou que vous aurez, que vous rencontrerez, et en particulier par rapport à Jean-Louis Bianco, qui a pu déjà vous tracer un tableau important. Consistant. Alors, le bureau, pourquoi un bureau central des cultes, en fait, dans un régime de séparation, en fait, là, partons de là, et du coup, je redirai quelques mots, justement, sur ce qu'est cette séparation, donc dans quel contexte elle s'est faite, des éléments qui sont importants à mes yeux pour comprendre, justement, les relations. Donc, séparation, une loi dite de séparation, une loi que moi j'aime appeler une loi de défaisance, c'est-à-dire une loi qui déconstruit, le seul objectif de cette loi, le premier objectif de cette loi, c'est de déconstruire l'organisation juridique qui, depuis grosso modo un siècle, permettait à quatre cultes, pour trois religions, à quatre cultes d'avoir un statut public officiel dans notre pays. Puisque la reconnaissance, c'était une reconnaissance juridique, c'est-à-dire l'existence de ce qu'on appellerait aujourd'hui un établissement public du culte, ce qu'on appelle d'ailleurs en Alsace et en Moselle, où ce statut s'applique toujours, des établissements publics du culte. Donc, on sort, par cette loi de défaisance, on sort les acteurs du culte du statut d'acteur public pour en faire des acteurs privés. On les inscrit dans le champ très clair de la loi de 1901, parce que la loi de 1905, c'est pas une négation, c'est un complément de la loi de 1901. Une association cultuelle, c'est d'abord une association, avec des devoirs, parfois des droits en plus, et c'est d'abord une association comme une autre. Une association, c'est une personne morale privée, c'est même la personne morale privée pratiquement la plus pure, puisque la liberté d'association est une liberté constitutionnelle, une liberté conventionnelle, et que dans les statuts d'une association, on peut écrire à peu près ce qu'on veut. Une association, c'est tellement démocratique que ça peut organiser une dictature quasiment absolue. Donc, on sort du régime public pour entrer dans le régime privé. Et donc, cette loi, elle organise cette privatisation de quatre cultes, je dis bien de quatre cultes, parce que même au XIXe siècle et au début du XXe, il en existait déjà d'autres en France qui n'avaient pas ce statut public. Je pense par exemple aux églises évangéliques, qui n'étaient de la tradition protestante, mais qui n'étaient ni luthériennes, ni calvinistes, qui n'étaient donc ni de l'église réformée, ni de l'église de la confession d'Augsbourg, et qui d'ailleurs, au XIXe siècle, ont parfois connu des mésaventures avec les représentants de l'État. Certains préfets, dans l'Est de la France, au XIXe siècle, Vermelfort, le Haut-Rhin, la Haute-Saône, pourchassés, on n'est pas à l'époque non plus, on parle de retour sous Louis XIV, mais les réunions du culte évangélique ne se passaient pas de façon sereine. Ces statuts, les cultes non reconnus, étaient dans un vide légal. Ils n'étaient pas reconnus, ils étaient donc tacitement interdits, mais de fait tolérés. Et là où les protestants de tradition luthérienne, luthérienne surtout, étaient fortement implantés, ils demandaient qu'on ne laisse pas faire, on ne laisse pas agir ces évangéliques. Donc, privatisation des quatre, je ferme ma parenthèse, privatisation des quatre cultes reconnus, catholiques, les deux protestants et le culte juif, et organisation par la loi de la répartition des biens, c'est tout le régime d'affectation des lieux de culte. Qu'est-ce qui disparaît donc? Et pour comprendre qu'est-ce qui disparaît, on va faire un peu d'archéologie administrative. En 1905, il y a en France une direction générale des cultes. Alors, placée parfois au ministère de l'Intérieur, mais tout au long de la Troisième République, elle a beaucoup bougé, elle est passée parfois à l'instruction publique, elle a parfois rarement été à la justice, comme c'est le cas dans d'autres pays européens, mais ça lui est arrivé. Donc direction générale composée de 11 bureaux, et sur ces 11 bureaux, 8 font des ressources humaines. 8 bureaux sont consacrés à gérer, à l'époque, les carrières des prêtres, des pasteurs, des rabbins et de leurs autorités. Donc en fait, c'est une gigantesque DRH et elle gère les prêtres en majorité, puisqu'il y a plusieurs bureaux pour l'Église catholique en prenant en quantité, comme elle gère les préfets et les commissaires de police. Enfin, pas de police nationale à l'époque, mais comme aujourd'hui, elle gérerait les commissaires de police. Les autres bureaux, il y a un bureau immobilier, lui aussi appelé à disparaître, un bureau qui gère le droit, et un bureau qui, globalement, ressemble un petit peu aux affaires, enfin, d'affaires réservées, donc affaires politiques. Quand il y a la loi de séparation, on pourrait imaginer que, emporté dans le mouvement, on supprime tout ça. Eh bien non, les choses vont d'abord se faire progressivement, et surtout elles vont aboutir à maintenir deux, puis un bureau qui est devenu le bureau central des cultes. Donc, en privatisant les établissements du culte, l'État n'a pas, visiblement, dès le début, entendu rompre ses relations avec les associations privées qui ont succédé à ces établissements publics. Bien évidemment, tous les bureaux RH ont disparu. Il n'y avait plus rien à gérer. On en a recréé un en 1919 pour les ministres du culte d'Alsace et de la Moselle. On l'a installé à Strasbourg. Donc plus de département RH. Le département immobilier, il reste le temps de faire les inventaires et la répartition, mais il disparaît après. Mais les deux autres structures subsistent. Donc, dès le régime de séparation, dès l'adoption de la loi de séparation, il n'est pas question, dans l'esprit des gouvernements successifs de la Troisième République, de faire disparaître un instrument administratif de relation avec les cultes. Donc ça, c'est extrêmement important pour comprendre que, je pense que tout le monde vous l'a dit d'une manière ou d'une autre avec ces mots, mais la séparation n'est pas l'ignorance. Ne plus reconnaître juridiquement les cultes, ce n'est pas ne plus les connaître. Et je dirais même qu'on peut retourner le prédicat, puisque quand on avait 4 cultes reconnus juridiquement, l'État pouvait fictivement, et j'ai pris l'exemple des évangéliques, l'État pouvait fictivement n'entretenir de relations qu'avec ces 4 structures publiques et ignorer tout le reste. Dès lors qu'il n'y a plus ces structures privilégiées et qu'il n'y a que un monde assez vaste rapidement de structures associatives cultuelles, l'État n'a plus la possibilité de choisir avec qui il discute et avec qui il ne discute pas. Donc, d'entrée, c'est établi une tradition d'être au contact, mais comme le sont d'autres services, d'être en relation avec un objet qui est un objet associatif. Le bureau central des cultes n'est pas un bureau de réflexion théologique. Le bureau central des cultes n'est pas un bureau de dialogue interreligieux. Nous en connaissons quand les acteurs du dialogue interreligieux veulent nous en faire part. Nous l'encourageons, pour des raisons citoyennes, civiques, j'aurai l'occasion d'y revenir. Mais nous ne nous en mêlons pas. Nous ne faisons pas de débat doctrinaire, nous ne faisons pas d'arbitrage doctrinaux, nous ne sommes pas une sorte de tribunal des conflits entre droit canonique catholique et droit coranique, donc je ne sais quelle, enfin, toute chose. Nous ne mêlons pas de ces affaires-là. Nous sommes un bureau qui est l'interlocuteur naturel d'une catégorie, enfin de deux catégories particulières d'associations qui existent en France. D'une part, les associations à objet cultuel, et par ailleurs, les congrégations qui existaient avant 1905 et qui d'ailleurs, c'est un titre de la loi de 1901, un titre à régime à part, et qui existe toujours depuis. Voilà. Nous sommes un interlocuteur administratif pour ces objets de droit que sont des associations à objets cultuels et que sont des congrégations. Ça, c'est extrêmement important parce que ça permet d'entrer, de positionner le débat de façon objective et sereine. Ce qui est important d'avoir à l'esprit, c'est que quand les parlementaires de la Troisième République ont fait la loi de 1905, ils l'ont fait, peut-être que certains diraient que je fais un raccourci excessif, mais ils l'ont fait non pas par esprit anti-religieux, ils l'ont fait plutôt, si on devait cocher une grande case, ils l'ont plutôt fait par anticléricalisme. Il ne s'agissait pas pour les uns et les autres d'expurger, d'extirper le christianisme, singulièrement le catholicisme romain, de l'esprit français. Il s'agissait de préserver les institutions républicaines, de l'influence de l'institution catholique. Ça aussi, c'est un point important qu'il faut avoir à l'esprit. Les Américains, le régime de séparation des églises et de l'État aux États-Unis, c'est un régime qui est construit pour protéger les églises de l'influence de l'État. Le régime français, il est intellectuellement construit à l'inverse. Il est construit pour protéger l'État de l'influence des cultes. Et ça, c'est pas une question, c'est pas un postulat philosophique en tant que tel. C'est un postulat qui est issu de l'histoire. Parce que la séparation s'est faite pour marquer une barrière très forte sur le poids, sur l'emprise de l'Église catholique sur la société et sur les institutions françaises. Et la loi de 1905 n'étant cela que une loi qui succède à d'autres lois, et en particulier les lois scolaires, une vingtaine d'années auparavant, et même si on remonte plus loin, pour moi, le premier acte intellectuel de la laïcité dans le droit français, c'est la création de l'état civil. Dès lors qu'en France, on crée des registres sans affiliation religieuse, sur lequel on inscrit quelqu'un à sa naissance, à son mariage et à son décès. Dès lors que donc quelqu'un n'est plus assigné par cette inscription à une communauté religieuse, on est dans une séparation du droit civil et du culte. Donc nous avons, en un siècle et quelques, laïcisé le droit civil, laïcisé la politique éducative, et ensuite, donc, laïciser la relation politique de l'État et des cultes. Et donc, ce point-là est extrêmement important parce que pour nous, aujourd'hui, le Bureau central des cultes, je vais y venir tout à l'heure dans ma description, c'est aussi, Xavier l'a dit en deux mots, c'est aussi le bureau qui est le bureau référent sur les questions de laïcité. Alors, pour faire simple, l'Observatoire s'adresse... répond d'abord aux questions venues des particuliers. Nous, on répond d'abord aux questions venues de l'administration déconcentrée, du ministère de l'Intérieur, au sens large, incluant les différentes directions départementales ou régionales qui existent autour des préfets et des préfets de région. Donc, en tant que centre de ressources, on va dire, en tant que coordination des référents laïcité qui existent dans chaque préfecture dans ce pays, nous avons aussi, nous sommes aussi les gardiens de cette idée qu'il faut bien assurer l'indépendance mutuelle des acteurs cultuels et des acteurs publics. Donc, typiquement, c'est pour ça que reviennent régulièrement vers nous les questions sur la participation des collègues, alors en ou sans uniforme, à telle ou telle cérémonie, à telle ou telle installation, à telle ou telle manifestation, et que là, bien évidemment, nous essayons de, quand le besoin s'en fait sentir, la plupart du temps, le besoin ne s'en fait pas sentir, et les choses sont bien évidemment gérées localement, mais voilà, nous essayons de rappeler cette ligne qui fait qu'il ne peut pas y avoir de confusion et qu'à aucun moment l'État, dans l'incarnation qu'il peut avoir au quotidien, et l'État territorial, c'est vrai que c'est d'abord en première ligne, on va dire, les agents du ministère de l'Intérieur, il ne peut pas y avoir donner l'impression qu'il y a une confusion des genres. Il y a quelques années, nous avions été saisis de la participation d'un collègue sous-préfet à une procession religieuse, alors fête traditionnelle, hein, comme il en existe plein dans le nord de la France, au cours de laquelle on sort des statues imposantes des églises pour les promener dans la ville. Évidemment qu'il y a plein de gens qui ce jour-là se retrouvent dans la rue autour de cette procession et qui le reste de l'année ne se posent pas la question de savoir s'ils sont catholiques ou pas catholiques. C'est aussi la fête de la ville. Il n'empêche que, bien évidemment, le sous-préfet ne peut pas se retrouver à être parmi les quatre personnes qui portent une statue de la Vierge à travers les rues de la ville. Voilà, c'est aussi ce genre de choses où nous rappelons que les relations en bonne intelligence sont nécessairement des relations d'indépendance et d'absence de confusion des registres et des ordres. Donc voilà ce qui a conduit le bureau central des cultes à être ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un interlocuteur administratif avec une dimension juridique importante dans son portefeuille, aussi bien sur le droit des cultes que sur le droit de la laïcité. Mais comme vous avez eu par ailleurs, je pense, l'occasion de l'entendre, de le constater, de le voir ou de le ressentir dans vos vies personnelles, notre société française s'est, au fil du XXe siècle, non seulement beaucoup plus sécularisée que d'autres sociétés européennes et occidentales, beaucoup plus en rapidité et en intensité, mais elle l'a fait au point de devenir très largement ignorante. Là, je reprends les thèses, par exemple, de Régis Debray, mais au point que, collectivement, nous en sommes largement devenus ignorants du fait religieux, comme on dit aujourd'hui, des religions, des cultes, de la vie des cultes, de la signification des fêtes, des moments, etc., etc. Et je pourrais dire désintérêt, on peut en discuter, est-ce que c'est du désintérêt, est-ce que c'est de la prudence? Je pense que le fait religieux, à un moment, faisait peur, donc on n'en parle pas, on s'en tient éloigné. En tout cas, cumulativement, année après année, tout ça a fait que il n'y avait plus forcément beaucoup d'interlocuteurs naturels pour avoir un dialogue quotidien, en tout cas régulier, sinon quotidien, du moins régulier, avec les acteurs culturels dans ce pays. Et que c'est devenu, probablement, année après année, de plus en plus difficile pour un acteur culturel. Alors, je ne parle pas, bien évidemment, que le président de la Conférence des évêques, l'archevêque de Paris, le grand rabbin de France, le président de la Fédération protestante, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, sont des personnes qui n'ont aucun problème à obtenir un rendez-vous avec nos plus hautes autorités. Mais derrière ces personnes-là, ceux qui font au quotidien tourner la boutique des 7, 8, 10 000 associations qui ont pour objet le culte dans ce pays, à différents niveaux, ils ont parfois trouvé le chemin des pouvoirs publics, d'État, mais peut-être aussi de nombreuses communes, enfin je sais. Toutes les communes n'ont pas la chance d'avoir une adjointe en charge des relations avec les cultes. D'ailleurs, la première commune de France n'en a pas, pour prendre un exemple. Donc, le chemin des pouvoirs publics était de plus en plus compliqué, et en fait, les responsables des associations, et au-delà des associations, surtout des fédérations culturelles, parce que les associations, elles tapent à la porte des préfectures d'abord, mais des fédérations nationales ou des unions nationales, bah, puisqu'elles venaient voir le bureau central des cultes pour parler de droit, elles se sont dit qu'elles pouvaient aussi, tant qu'à passer la porte, venir voir le bureau des cultes pour faire passer leur message, pour être écoutées, pour poser leurs questions, leurs interrogations au sens politique, le sens le plus large du terme. Et donc en fait, de façon très naturelle, sans que ce soit jamais inscrit vraiment quelque part noir sur blanc dans les fonctions de ce bureau, le bureau des cultes est devenu l'interlocuteur quotidien des responsables des cultes. Au sein du cabinet du ministre de l'Intérieur, il y a toujours quasiment un conseiller en charge des relations avec les cultes. Mais le conseiller en charge des relations avec les cultes, il n'est jamais exclusivement, même à l'époque, je pense, où les cabinets, alors peut-être à l'époque où les cabinets étaient vraiment pléthoriques, c'est arrivé, mais en tout cas, sur les 15 dernières années, le conseiller en charge des cultes auprès du ministère de l'Intérieur, il a toujours eu autre chose à faire avec les cultes. Je vais prendre l'exemple du portefeuille de l'actuelle conseillère en charge des relations avec les cultes au cabinet de Christophe Castaner, et le portefeuille était le même auprès de Gérard Collomb. Liberté publique, asile, immigration, culte. Voilà. Donc, on est sur des cabinets qui ont été restreints depuis l'élection d'Emmanuel Macron, mais quand même. Ça veut dire que la même conseillère, elle a porté la loi de sortie de l'état d'urgence, la loi sécurité, lutte contre le terrorisme, la loi asile-immigration. Après, tiens, elle a eu le temps de s'occuper éventuellement de... Donc au quotidien, c'est évident qu'il y a besoin, dans les services, d'un interlocuteur qui peut répondre présent quand ça peut prendre un mois ou deux. Au niveau du cabinet. Et entre ce qui était écrit, donc notre fonction administrative juridique, et cette fonction plus politique, qui de fait ne l'a jamais vraiment été, eh bien, cette ambivalence, elle s'est retrouvée dans... je refais encore un peu d'archéologie administrative, dans le rattachement de ce bureau central des cultes, parce que ça n'est qu'un bureau, donc un petit niveau dans l'administration, elle s'est retrouvée à passer entre différentes directions, et je trouve que ça illustre bien justement le focus qui a pu être mis sur ces deux métiers. Alors, le bureau central des cultes, depuis 1945, n'a plus quitté le ministère de l'Intérieur. pourrait même dire d'ailleurs globalement depuis même déjà sur la fin de la Troisième République, il y était. Mais bon, il s'installe en tout cas là où il est actuellement, l'immeuble du 3 rue Cambacérès, il y est depuis la Libération. Et ce bureau a d'abord été rattaché à la direction, lorsqu'on a une direction qui n'existe plus, mais la direction des affaires politiques et territoriales, qui a disparu. Et donc c'était la direction qui gérait le corps préfectoral, toujours une direction qui gère ça, et qui gérait également les relations avec les associations, les fondations et les cultes.
Et les élections.
Et les élections. Qui sont toujours dans la direction qui accueille le corps préfectoral. Donc, quelque chose qui montrait que la dimension relation interlocuteur était prioritaire, la dimension politique au sens large du terme. Et ce n'est que très récemment, à l'échelle administrative, il y a donc une dizaine d'années, plus maintenant, que Non, que ce bureau a été rattaché là où il est actuellement, et a priori il n'est pas censé bouger, à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques. Alors il a migré avec les associations, il a par contre laissé les élections à ce qui est devenu la direction de la modernisation et de l'action territoriale, la DEMAT, avec le corps préfectoral, mais il a réintégré donc le grand domaine des libertés publiques et clairement a été mis en avant donc la dimension juridique de l'action de ce bureau. Donc voilà quels sont les grands enjeux et donc pour résumer les trois missions du conseil ou de la et je disais, de la tutelle et ou du conseil administratif et juridique. Du dialogue avec les acteurs des cultes et de l'information pour nos autorités politiques, parce que, conséquence aussi de ce que j'évoquais précédemment, la ressource est faible aujourd'hui. Très clairement, tout à l'heure pour répondre au téléphone, et ça sera un exemple, quand il y a une question à poser sur la sphère religieuse, globalement, on vient nous la poser parce que voilà, il n'y a pas 36 endroits à qui la poser. Dans toute l'architecture gouvernementale, il n'y a que deux services qui sont clairement dédiés aux relations avec les cultes. Le Bureau central des cultes au ministère de l'Intérieur et le service du conseiller aux affaires religieuses au ministère des Affaires étrangères. Que vous rencontrerez prochainement. Voilà. Nous sommes les seuls. Alors, le Conseil des affaires religieuses, il a été créé début des années 20 dans le cadre de la réconciliation accélérée avec l'Église catholique. Très longtemps, d'abord, conseiller aux affaires catholiques. Bon, aujourd'hui, il a une vision plus globale depuis que, globalement, depuis. Bernard Kouchner, qui avait vraiment donné à la religion, enfin aux faits religieux, toute sa place dans la réflexion diplomatique française. Il avait même à l'époque créé un centre d'études sur ce phénomène-là.
Avec Joseph Mailor.
Oui. Dans tous les autres ministères, les acteurs cultuels n'ont d'interlocuteurs que des techniciens en lien. Enfin, comment dire, dont le lien est un lien métier, mais pas un lien personnel. Je vais prendre un exemple. À l'éducation nationale, l'enseignement privé a pour un interlocuteur la direction des affaires financières. Parce que c'est la direction des affaires financières. La relation que l'État a avec l'enseignement privé, dont on sait qu'il est très clairement majoritairement catholique en France, et encore plus majoritairement religieux, elle est financière. Ministère de la Santé, ministère de la Santé, des Affaires sociales, c'est le service ressources humaines à la Direction générale de l'offre de soins. Pourquoi? Parce que c'est eux qui supervisent la question, la rémunération et le statut des aumôniers. Commissariat aux armées pour l'aumônerie aux armées. Direction de l'administration pénitentiaire à la justice, parce que c'est là, dans un bureau RH au sein de la DAP, qu'il y a les aumôniers. Direction générale des patrimoines à la culture, pour parler cathédrale et église classée, etc., etc. Mais jamais quelqu'un dont, dans le titre, il y a relation avec les cultes. Donc, très rapidement, dès qu'on est sur une question qui n'est pas une question d'article du Code de la Sécurité sociale, bah, on vient vers nous. Parce que quand il y a telle minorité religieuse qui s'organise, ou qui pose une question, ou qui a une rencontre, ou qui... Voilà, qu'est-ce qu'on en fait, voilà. Pour avoir une vision globale, on se retourne vers nous, et ce qui est administrativement complexe, parce que nous sommes un bureau au sein d'une direction du ministère de l'Intérieur. Nous ne sommes pas un service interministériel. Nous ne sommes pas le CIPDR, nous ne sommes pas la MIVILUD, nous ne sommes pas l'observatoire placé auprès du Premier ministre. Nous sommes un service du ministère de l'Intérieur. Donc, nous n'avons pas de tutelle, nous n'avons même pas d'initiative en droit sur ce que font les autres ministères. Mais en même temps, quand le Premier ministre décide d'un groupe de travail sur le statut, l'amélioration du statut, au sens large du terme, pas statut fonction publique, mais du statut des aumôniers dans ce pays, il nous demande de prendre, de piloter ce groupe de travail, et non pas de laisser ensemble les trois ministères qui pourtant sont les premiers concernés et qui auront 95% des réponses. Voilà, donc quand il y a une discussion sur le statut des futurs, alors je ne sais plus quel est le terme neutre qui a été retenu, jeunes qui s'inscriront dans le service national universel, et que donc se pose la question de savoir neutralité religieuse ou pas dans le cadre du SNU, et en particulier dans le cadre des 15 jours en dortoir commun, qui sera obligatoire dans le cadre du SNU quand il deviendra universel, bah c'est à nous qu'on pose la question. Alors que c'est le ministère de la Jeunesse qui gère le SNU, qu'on se réfère au code du service national qui était quelque chose qui était plutôt du côté de la défense. Mais voilà, donc dès que la question a une portée généraliste et tant soit peu politique, on vient nous chercher. Et donc ça, c'est extrêmement complexe parce que, alors, c'est à la fois passionnant, pas vous dire le contraire, c'est ce qui fait de ce bureau un des plus beaux bureaux, je pense, alors du ministère de l'Intérieur, ça tout le monde le dit, donc je l'assume, je pense même plus largement parce que on est à un niveau de transversalité, de panoptique, que on a, je pense, pas beaucoup ailleurs, à une situation de bureau avec dessus une sous-direction, une direction. Mais en même temps, l'administration n'est pas forcément toujours bonne mère et elle nous a pas forcément donné les moyens qui vont avec. C'est-à-dire que nous avons les moyens d'un petit bureau d'administration centrale. C'est-à-dire pour faire ce que je vous ai décrit très généralement et sur lequel on pourra revenir dans les échanges, nous sommes neuf. Voilà. Alors, 9 cadres A, très bien. En même temps, l'absence de cadre B, parfois, complique aussi un peu le fonctionnement quotidien, mais peu importe. Mais 9 pour traiter les commandes de fiches, d'informations, le suivi juridique, parce que les congrégations, il y a encore une véritable tutelle. Les associations cultuelles, dans l'association culturelle, on l'a dit, il y a association. Territorialement, dans le cadre de la redéfinition et des politiques et des moyens des services de l'État, on ne peut pas dire que le service des associations s'est été, et c'est normal, placé en priorité numéro un. Donc entre les départements où c'est parti, dans les services jeunesse et sport, mais derrière la jeunesse et les sports, dans les départements où c'est le grève des associations, c'est pas les collègues qui me démentiront, c'est au fin fond des services du secrétariat général. Enfin, c'est pas le poste que choisit l'agent le plus motivé lorsqu'il arrive. Il dit je veux faire le grève des associations. Bon, donc on se retrouve. Et pourtant, il y a quand même un droit complexe. Donc on se retrouve avec un déficit d'information. On se retrouve avec parfois une inégalité de traitement parce que bah oui, il vaut mieux être une association cultuelle en Île-de-France parce que bah, la PRIF elle a les moyens de bien vous traiter alors que en Lozère, dans l'Aveyron, dans les Hautes-Alpes, c'est pas forcément la priorité. Donc voilà, c'est aussi ça la grande difficulté de ce bureau au quotidien. C'est qu'il faut tenir cette ambition et ces sujets avec des petites équipes. Et quand je vous parle du territorial, c'est parce que du coup, il y a de plus en plus de questions qui nous remontent. On est de plus en plus sollicité sur notre pôle juridique, sur aidez-nous, qu'est-ce qu'on fait, on ne veut pas se planter dans une démarche de rescrit administratif. Donc voilà, donc c'est quelque chose de passionnant, c'est quelque chose de très enrichissant, mais c'est aussi quelque chose qui est tous les jours de l'année au bord de la surchauffe et qui l'est encore plus pendant les vacances, parce que forcément, quand vous passez de 9 à 5, c'est forcément là que les choses... Mais voilà, et donc ça oblige à la polyvalence, ça oblige les non-juristes à regarder un peu ce qui se fait en droit, ça oblige les juristes à pouvoir faire des notes d'actualité. Mais c'est assez complexe. Et là-dessus, vous rajoutez, et ça ne va pas être anecdotique, un tout petit dossier que les bonnes fées des pouvoirs politiques successifs ont déposé dans notre corbeille. Allez, quand est-ce que... Je pense que c'est Pierre Joxe le premier, mais à l'époque, ce n'était pas encore... tellement ambitieux. Enfin, l'idée est arrivée là. Et ça a été... Le gouvernement, à partir globalement après Pierre Joxe, a dit « Il faut s'occuper de l'organisation de l'islam de France. » Alors, début des années 90, donc vraiment, c'est pas encore très prenant, arrive Jean-Pierre Chevènement, mise en place d'une consultation massive, ambitieuse, qui dure, qui se prolonge... avec Daniel Vaillant. Nicolas Sarkozy en tire les conclusions ou les fruits avec, en forçant la création du CFCM en 2002, quand, quelques mois après son arrivée Place Beauvau. Et depuis, ça n'a plus cessé. C'est-à-dire que depuis lors, le bureau est l'interlocuteur naturel des acteurs du culte musulman, mais également l'interlocuteur des pouvoirs publics qui ont les uns et les autres, de façon désormais quasiment systématique, considéré ce dossier comme étant un dossier politiquement prioritaire, parmi d'autres priorités. Mais en tout cas, c'est toujours été un dossier chaud avant même 2015. Donc voilà, donc très concrètement, aujourd'hui, le dossier islam, ça n'est jamais moins du tiers de l'activité du bureau, tout dossier compris. Et ça tangente la plupart du temps à une bonne moitié de l'activité du boulot, et ça peut, dans certains cas, monter au-dessus. Alors, pourquoi ça? Parce que le CFCM, établi fonctionnellement mi-2003, donc une grosse quinzaine d'années, une bonne dizaine d'années pendant lesquelles la relation était très étroite, c'est-à-dire que l'accompagnement à la structuration et à l'organisation du culte musulman, c'était une présence quasiment au quotidien dans la vie de cette structure supposée fédérer les fédérations et dans un second temps les mosquées indépendantes pour tenter d'introduire pas forcément de la verticalité dans le culte musulman. L'ambition, je pense, n'a jamais été là chez les politiques, heureusement, mais en tout cas un peu de verticalité dans l'organisation, la structuration et donc la création d'interlocuteurs nationaux et régionaux avec les déclinaisons que sont les CRCM. Donc quelque chose qui a été extrêmement chronophage parce que le CFCM a été originellement pris dans ses vices, je ne veux pas sans connotation, mais dans ses troubles, dans sa maladie congénitale. C'est-à-dire qu'il a été créé de façon prétorienne. Nicolas Sarkozy enferme le week-end précédent Noël dans un château qui appartient, alors enferme avec leur consentement, hein, pas non plus. Invite dans un château qui était à l'époque l'école des sapeurs-pompiers dans l'Essonne, les représentants des fédérations qui veulent mettre autour de la table en leur disant c'est bien gentil, Chevènement et Vaillant, ça fait 3 ans qu'ils vous invitent à travailler, à vous réunir, vous n'avez rien produit, donc là maintenant vous êtes gentil, je vous invite dans le château, vous y rentrez le 20 ou 21 décembre, et puis vous en sortirez avec un accord. Voilà, globalement, on sait à peu près ce que doit être cet accord, mais je vous demande de sortir en ayant fini d'en écrire, de compléter les trous et de le signer et de l'annoncer. Alors, pour la petite histoire, il revient le samedi soir, il offre un dîner avec Cécilia Sarkozy à l'époque. D'après les acteurs présents, Cécilia Sarkozy est beaucoup, et pour beaucoup, dans le succès de l'initiative, et effectivement, donc le 23 ou le 24 au matin, je ne sais plus, ils ressortent libres et heureux, leur accord signé, annonçant des élections 6 mois après, en sachant qui serait le président à l'issue de ces élections. Voilà. Et là, on en arrive au premier trouble, au sens génétique du terme, c'est-à-dire qu'on conçoit une architecture à partir des acteurs fédératifs, en construisant cette architecture sur la prise en compte fondamentale que la fédération qui représente les mosquées de sensibilité algérienne est moins puissante en troupes que la fédération représentant les mosquées de tradition marocaine, et qu'il faut donc établir un accord politique qui marque leur stricte égalité. Voilà. Donc l'accord, il est construit comme ça, et puis autour, on met les autres, au départ, à peu près toutes les fédérations, pour marquer l'unité. Mais, très rapidement, ces rivalités consulaires, elles vont rythmer la vie du CFCM, au rythme de la courbe de température des relations entre Rabat et Alger, s'y rajoute en plus après des rivalités internes à une des deux sensibilités qui continuent à complexifier les choses, et ce qui fait que dès 2008, on a un CFCM qui est marqué à chaque élection par le boycott d'au moins une fédération. C'est-à-dire que les fédérations sont allées aux élections initiales, elles sont allées aux élections suivantes 2 ans plus tard, 2008, 2011, 2013, et ce sera probablement le cas là aussi, toutes les autres élections ont connu 1 ou 2 boycotts majeurs. Mais cette structure est l'interlocuteur des pouvoirs publics, cette structure est l'élément... la pièce fêtière de l'ensemble, et donc il faut la maintenir. Donc on continue ce dialogue-là, en s'épuisant d'ailleurs, en épuisant le dialogue avec les autres acteurs de terrain, qui ne se reconnaissent pas dans ces querelles, qui ne se reconnaissent pas dans ces jeux de pouvoir, qui ne se reconnaissent pas dans ces ambitions, et qui continuent localement d'être confrontés à leurs problèmes. Donc, petit à petit, les choses ont évolué. Alors, les choses ont évolué sur la relation entre l'État et les acteurs du culte musulman. Par contre, les choses n'ont pas évolué sur la charge de travail pour le Bureau central des cultes, qui est l'objet de cette présentation. Puisque arrive l'année 2015, avec les événements qu'on connaît, Alors, une réaction du CFCM qui, si, j'ai été taquin, un peu ironique, et malheureusement peu optimiste sur le fonctionnement de cette structure et son rayonnement au-delà des fédérations. Alors, statistiquement, les fédérations, hein, c'est toutes les fédérations. Si aucune fédération ne boycottait les élections du CFCM, on arriverait à une petite moitié des mosquées qui soient concernées. Voilà. Bonne moitié des mosquées françaises qui sont indépendantes de ces affiliations fédératives. Soit elles ont des affiliations locales, soit elles n'ont pas d'affiliation. Donc de toute façon, voilà, on est toujours sur une petite moitié. Et comme je vous dis qu'il y a toujours du boycott, on est plutôt entre 30 et 40% de mosquées représentées par le CFCM. Alors, bien, 30 ou 40%, c'est mieux que 1500 atomisés à côté, c'est sûr. Mais bon, ça n'était pas l'ambition. Mais donc Bernard Cazeneuve, alors le CFCM, je disais, il faut noter un élément très positif, c'est qu'au lendemain des attentats de novembre, le CFCM a réussi à mobiliser l'ensemble des acteurs à l'Institut du Monde Arabe et à porter une parole républicaine très forte qui a été reconnue par les pouvoirs publics. Mais au-delà de cette parole très forte, Bernard Cazeneuve, qui à l'époque était ministre de l'Intérieur, a considéré qu'il fallait relancer ce travail. Alors, ce n'est pas l'État qui organise hein, le culte musulman, et c'est pour ça aussi peut-être que c'est l'État qui accompagne localement et nationalement les initiatives d'organisation et de structuration, qui peut les susciter, qui peut les encourager, mais ce n'est certainement pas l'État qui fait, une fois l'épisode anecdotique et un peu people de décembre 2002 au fin fond de l'Essonne. Donc cet accompagnement, Bernard Cazeneuve a décidé qu'il fallait redonner un nouveau souffle, parce qu'il voyait bien que le CFCM s'épuisait. Et donc il a lancé l'idée de ce qui était une instance de dialogue, qui était donc organisée autour de différents thèmes, la réunion à Beauvau, mais préparée en amont dans chaque préfecture, de 150 à 200 voix de l'islam en France, aussi bien les acteurs institutionnels, le CFCM n'en a jamais été exclu, mais d'autres voix, justement, alors soit des voix des mosquées, soit d'associations religieuses, soit de personnes qui se sentent intéressées. Il a donc fallu monter par trois fois, en 2015 et en 2016, ces instances de dialogue, identifier avec le réseau des préfectures les intervenants, monter les ateliers, organiser le travail, faire préparer les synthèses, etc., etc. Donc un travail là aussi extrêmement prenant et encore extrêmement chronophage. Alors ces instances de dialogue, elles ont été poursuivies par l'actuel gouvernement sous une forme encore plus territorialisée, qu'on a appelé les assises territoriales à la fin de l'été dernier, avec un tout petit changement de logiciel. C'est-à-dire qu'on s'est dit, c'est très bien de faire préparer les gens dans les préfectures, mais il y a encore trop de gens qui considèrent que la vraie réunion, c'est celle qui se tient dans la salle des fêtes du ministère de l'Intérieur. Donc, pour bien acter que ce qui compte, c'est le travail local, on va supprimer la réunion dans la salle des fêtes. Parce que déjà, on n'aura pas la guéguerre pour être sur la liste des 150 et quelques, parce que la salle des fêtes de l'hôtel Beauvau, elle est petite. Au-delà de 150, on ne sait plus faire. D'autant que si on n'invite pas les 60 représentants des administrations concernées, le lendemain, c'est la crise. Il y a une rime de crise organisée pour régler les comptes. Donc, en plus, il y a ces places prises. Donc, on a dit, on fera le même exercice, mais il ne se fera que localement. Mais par contre, du coup, travail de synthèse des remontées qui nous est revenu. Voilà, donc ce quotidien est, qui est donc là, donc de la synthèse, mais qui derrière fait aussi forcément un travail de prospective, un travail de proposition. Typiquement, dans la dans la configuration actuelle, les assises territoriales ont porté unanimement dans tous les départements, dans toutes les préfectures, une demande d'organisation locale. Alors, les gens n'ont pas tous fait des propositions avec des statuts, peu importe, que ce soit des conseils, des comités, des assemblées. Mais l'idée, mais vraiment dans chaque réunion, ça a été de dire ce qui manque aujourd'hui, c'est au niveau départemental, parce que l'interlocuteur naturel derrière le maire, c'est le préfet de département. Le culte, c'est pas une compétence de préfet de région. C'est le préfet de département. Donc, d'avoir dans chaque département une structure la plus ouverte possible, peut probablement pas, d'ailleurs, plein de fois, on nous a dit, faut pas qu'il y ait d'élection, parce que dès qu'il y a une élection, c'est reparti dans les turpitudes. Donc, simplement, tous les acteurs locaux se réunissent, ils désignent des porte-parole, mais identifions localement. Le Conseil français du culte musulman, le CFCM, n'a pas voulu entendre cette demande. Il s'en méfie pour des tas de raisons. Certaines me semblent raisonnables et méritent d'être entendues. D'autres relèvent des guéguerres et des enjeux qu'on a pu évoquer. Mais donc voilà, typiquement aujourd'hui, il faut qu'on arrive à penser ce dont nous sommes garants, c'est-à-dire qu'en accueillant 3000 personnes dans les préfectures, et en leur disant dites-nous ce qui ne va pas et dites-nous comment vous voudriez que ça aille, on ne peut pas maintenant faire comme si on n'avait pas entendu ce que ces 3000 personnes ont dit. Ces 3000 personnes ont dit aidez-nous, accompagnez-nous à inventer des structures locales. Beaucoup ont dit on s'en fout, c'est pas contre le CFCM, c'est pas contre les CRCM, c'est quelque chose qui n'existe pas et dont on a besoin. Aidez-nous à le faire. Bon. Et on a un interlocuteur institutionnel depuis 15 ans, 16 ans maintenant, qui nous dit nous, on veut pas de ça. Bon. Voilà. À qui on demande d'imaginer des propositions pour continuer à avancer pour le bien des uns et des autres, c'est à nous. Donc voilà comment on avance. Et puis, des propositions qu'on essaye d'être le moins doctrinaire possible, parce que bien évidemment, c'est pas le but. J'ai pas un agenda caché. J'ai pas dans mon carnet un plan pour l'islam de France idéal qu'à chaque occasion j'essaye de refiler paragraphe par paragraphe. Ça serait peut-être plus simple parfois, mais bon. Mais non, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Et voilà, donc c'est qu'est-ce qu'on trouve, comment on sort de ces frictions, comment on avance. Et très régulièrement, il y a des interlocuteurs qui nous disent, encore ce matin d'ailleurs, inspection générale de l'administration, mais au fond, pourquoi vous vous occupez de ça? Parce que la liberté de culte, après tout, c'est la liberté, y compris dans la désorganisation, et puis après tout, les citoyens comme les autres, et donc ils assument les conséquences. Je vous l'ai dit, on a un rôle de garant d'un certain nombre de choses. Enfin, de garant, oui. On veille au respect d'un certain nombre de choses. Et veiller au respect de la liberté de culte en tant que c'est une dimension de la liberté de conscience. Là, pour veiller à la liberté de conscience. Donc, de croire et de ne pas croire et de changer de religion. Mais, bien évidemment, garantir la liberté de croire pour ce qui est objectivement la deuxième religion la plus pratiquée dans ce pays. Et qui sera, d'ici quelques années, et quelques est un plutôt petit nombre, la première religion pratiquée, si ce n'est déjà le cas, parmi les jeunes. Et qui sera donc mécaniquement, dans bien moins qu'une génération, peut-être une demi-génération, peut-être la première religion pratiquée en France. Quand vous avez une personne qui se définit comme musulman sur deux qui se dit pratiquante, et que vous avez 4% des personnes qui se définissent comme catholiques qui se définissent comme pratiquantes, vous avez beau avoir une base des catholiques qui est largement supérieure encore à la base des musulmans, quand vous avez 50 versus 4, les courbes, elles finissent par se croiser. Voilà. Et donc, dès lors que nous savons que derrière les déclarations de principe, ce n'est pas un fait neutre pour une partie de nos concitoyens, et cette partie de nos concitoyens étant particulièrement parfois plus active médiatiquement, internautiquement, etc., etc. La liberté de culte, c'est aussi que le fait religieux, la pratique religieuse, ne devienne pas un élément qui remette en cause la paix sociale. Dès lors qu'on considère, et c'est une évidence, mais dès lors qu'on considère que ce n'est pas une religion en tant que telle qui est un élément de trouble à la paix sociale, il faut bien oser en tant qu'acteur public de prendre à bras le corps les dysfonctionnements, la question des dysfonctionnements de l'organisation du culte qui concerne 3, 4, 5, 6 millions de nos concitoyens. Parce que c'est un enjeu collectif. Parce que le fait que les musulmans dans ce pays puissent pratiquer individuellement, ça, de plus en plus de situations au quotidien où les choses se font, c'est... mais s'organiser, se structurer, et donc être entendu, et donc être écouté, comme les autres cultes, comme les autres convictions dans ce pays, c'est un enjeu global. Et c'est pour ça que je vous ai dit au début, quand j'ai évoqué le dialogue interreligieux, on ne le fait pas, mais on le favorise. Bernard Cazeneuve, en 2015, je terminerai là-dessus, avait commandé un rapport à l'inspection générale sur comment aider au dialogue interreligieux. Vous imaginez deux inspecteurs généraux qui font le tour des préfectures, qui vont voir des préfets, en leur disant, alors vous, qu'est-ce que vous faites pour aider le dialogue interreligieux ? Ils ont eu de grands moments de solitude. Ils auraient pu faire une exposition Le Coq, parce que pour l'instant, il y a encore majoritairement des coqs plutôt que des poules dans le corps préfectoral, et le couteau, parce que c'était, mon Dieu, qu'est-ce que je dois en faire ? Ah, il faut faire quelque chose, mais c'est pas possible. Non, je ne peux pas, je ne sais pas, je ne veux pas. C'est dangereux, laïcité, neutralité. Non, mais c'est pas, on ne vous demande pas de faire de la religion, on vous demande d'accompagner le dialogue interreligieux, c'est-à-dire on vous demande d'intégrer cette idée que le dialogue des convictions est un élément, je dirais jamais c'est l'élément, je pense qu'il y a des gens qui s'enthousiasment, non, dialogue interreligieux c'est la clé de tout, non c'est pas la clé de tout, mais par contre nier que dans le dialogue entre des groupes, des associations, localement, la connaissance de quelque chose d'aussi important que les convictions religieuses de l'autre, dans une société où, après un siècle de retrait, on a au contraire un retour et du sentiment et de la volonté d'exprimer ces convictions religieuses, oui, le dialogue interreligieux est une composante du grand projet républicain, du vivre ensemble, dont les acteurs publics sont comptables. Et donc c'est là aussi que, justement, nous avons ce travail d'accompagnement à faire. Et alors là, on accompagne tout le monde, du coup. On accompagne les acteurs, mais il faut aussi accompagner les collègues qui, pour le coup, parfois, disent « Mais attends, moi, je n'ai pas envie de me retrouver après avec un rapport de l'inspection parce que je me suis retrouvé à moins de 2 mètres de la statue de la statue de Marie. » C'est pas ça le sujet. Donc voilà, mais il y a cette ambition-là, cette ambition d'aider les uns et les autres à écrire les choses. Voilà le tableau que je pouvais vous faire sur les activités du bureau. J'espère, au détour de la dernière partie de ma présentation, avoir tordu le cou à cette idée que les médias adorent, qui est que l'islam de France se gère au ministère de l'Intérieur. Non, l'islam de France ne gère pas au ministère de l'Intérieur. Nous n'en avons ni les moyens, ni l'ambition, parce que, justement, nous sommes là, je le répète, en tant que pour veiller à la liberté du culte, dont la libre organisation est un élément. Mais la libre organisation, c'est aussi permettre la libre organisation. Voilà. Ah oui, j'oubliais, tiens, je terminerai là-dessus. On est aussi un des rares bureaux à avoir une vie diplomatique. Puisque, alors, plus pour très longtemps, puisque le président de la République a explicitement souhaité l'extinction de ce régime vers la fin de son quinquennat. Mais il y a des accords permettant la présence en France de fonctionnaires religieux turcs pour 140 d'entre eux, algériens pour 120 d'entre eux, marocains pour 30 d'entre eux, ce qu'on appelle couramment les imams détachés, qui sont donc des fonctionnaires, puisque dans ces trois États, il y a les imams sont fonctionnaires, qui sont donc des expats de leur fonction publique, qui viennent exercer en France, pour compenser le manque criant de cadres religieux formés, capables d'assumer ces charges. Aujourd'hui, en France, un imam sur deux, un imam khatib, donc il prêche le vendredi, un imam sur deux en France, on estime, est bénévole. Ça fait partie des enjeux de structuration. C'est comment... comment enclencher des dynamiques positives qui permettent de l'autofinancement, mais de l'autofinancement aujourd'hui, ça c'est mon avis, je ne sais pas en penserait, mais la priorité aujourd'hui pour moi c'est pas de construire, c'est de permettre à ceux qui font vivre les bâtiments et des lieux de culte d'avoir une vie personnelle, familiale, digne, mais aussi, du coup, de donner une image digne de ce qu'ils font. Parce que 1 sur 2 sont bénévoles, vous enlevez les 300 qui sont des fonctionnaires étrangers, sur ceux qui restent, vous en avez la moitié dont on estime, d'après les travaux de chercheurs, qui sont rémunérés en dessous du SMIC. Alors, ils ne font pas des temps pleins, mais sur le temps qui passe pour la mosquée, on est en dessous, on est sur... Ça joue aussi, je ne dis pas que tout se joue là-dessus, mais quelqu'un qui est imam, qui ne peut pas être imam parce que ça ne lui permet pas de faire vivre sa famille, qui a un régime de sécurité sociale bancale, s'il se définit comme imam, ça ne donne pas une image respectée socialement de cette fonction. Le principal enjeu aujourd'hui, il est là. Alors, il y a la question financière et il y a la question de la formation sur laquelle nous travaillons avec les acteurs, avec l'enseignement supérieur aussi. Mais voilà, l'enjeu aujourd'hui, et c'est pour ça que si l'enjeu il était bâtimentaire, on pourrait croire que le ministère de l'Intérieur et les collectivités locales peuvent gérer les choses. S'il suffisait de construire ou de rénover... le problème serait grand parce qu'il y aurait toujours le problème de ressources. C'est bien que dans la vallée de la Seine, les problèmes sont nombreux. Mais le problème, il est d'abord humain. Et voilà. Je boucle. Ce ne sont pas des fonctionnaires, donc ce ne sont pas des gens sur lesquels nous avons un pouvoir de gestion, d'augmentation, de carrière, etc., etc. Et c'est ce qui rend les choses aujourd'hui extrêmement, extrêmement difficiles, mais extrêmement belles aussi, parce que c'est un magnifique chantier. Voilà.
Merci beaucoup.